Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Mettre le cap sur la transition, c'est la raison d'être de ce podcast qui, épisode après épisode, observe toutes les transformations de nos modes de vie que cela suppose. La fin des énergies fossiles, l'énorme chantier de l'électrification, une autre manière de se nourrir et donc de cultiver, une autre manière de se déplacer, de travailler. Les sujets sont nombreux et à chaque fois, les chercheurs de l'IDRI nous aident à identifier les écueils, les points de blocage, pour imaginer la manière de les surmonter. Le défi est immense, au carrefour du politique, de l'économique et du social, afin que cette fameuse transition soit un progrès pour tous et non pour quelques-uns seulement. Et si on imaginait pour cela un nouveau contrat social ? C'est justement ce à quoi travaille l'IDRI en collaboration avec l'Institut allemand Hot or Cool. Et c'est notre sujet du jour avec Marion Bette, l'une des chercheuses du programme Mode de vie en transition. C'est parti ! Bonjour Marion Bette.
Bonjour.
Pour comprendre d'où part cette idée d'élaborer un nouveau contrat social, il faut sans doute commencer par définir cette notion. On remonte à Rousseau ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une notion qui remonte au XVIIe et XVIIIe siècle et qui a beaucoup été mobilisée par Hobbes et Rousseau, en particulier, donc deux philosophes. Et alors, de notre côté, on y voit un intérêt un peu plus actualisé. En fait, on voit quatre intérêts dans cette notion de contrat social. Déjà, c'est qu'elle a un intérêt de révélateur, en quelque sorte. En fait, le contrat social, ça fait voir des choses décisives dans l'histoire qui sont d'ordre politique et social. Donc, appréhender les choses à travers la lunette du contrat social, ça permet de mettre en évidence, au cours de l'histoire, quelles formes ont prises les demandes sociales, par exemple. Donc, la demande de plus de sécurité au travail, de plus hauts revenus, ce genre de demandes. Ça permet de voir aussi les grandes promesses de la modernité, comme la promesse de s'émanciper par le travail ou d'abolir les inégalités de consommation. Mais ça permet aussi de voir les conflits et les points d'accord entre les classes, et puis surtout les réponses qu'ont pu apporter les gouvernements, les déceptions que ça a pu engendrer. Donc ça, c'est le premier intérêt. Ensuite, l'autre intérêt de la notion de contrat social, c'est que ça permet de redonner une forme de pouvoir aux citoyens et aux groupes sociaux. En fait, avec cette notion, on se dit qu'on est en droit d'avoir des attentes, de demander des contreparties, de nouer un contrat. Donc ça réhabilite assez sainement la notion de démocratie. Le troisième intérêt, c'est aussi que ça mobilise. C'est une notion très mobilisatrice. Et l'autre intérêt, le dernier intérêt, c'est que la notion de contrat social, en fait, elle a une approche systémique. Elle permet de voir l'ensemble des formes d'arrangement existantes, les structures collectives qui ont été pensées d'une certaine manière et qui, aujourd'hui, cimentent la société.
C'est une forme d'utopie, d'une certaine manière, un monde idéal de consensus.
Alors, justement, c'est peut-être une limite de la notion, c'est qu'elle exprime parfois cette idée un peu d'utopie, disons qu'elle laisse parfois entendre l'idée qu'il y a toujours eu des négociations équilibrées entre le gouvernement et les groupes sociaux et qu'il y a toujours eu une forme de consensus. Mais en réalité, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a eu des déséquilibres, il y a eu des asymétries, il y a eu des conflits dans la définition de ce pacte social. Donc, on veut s'emparer de la notion de contrat social, à la fois, certes, pour montrer ce sur quoi les citoyens s'accordent, voilà, les arrangements sociaux, les institutions qui les relient, mais aussi pour montrer les conflits à l'œuvre, les déséquilibres au niveau des forces dans la société, au sujet de ces enjeux, et au niveau des attentes que l'on est en droit d'avoir.
Donc, l'idée d'un nouveau contrat social, ce serait de trouver des voies pour la transition qui tiendraient mieux compte de ces attentes, de notre configuration sociale complexe, et puis des impératifs de transition. Ça suppose qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui.
Oui, en fait, il y a plusieurs écueils que l'on voudrait éviter et qui pèsent sur notre contexte actuel. Alors déjà, c'est que la transition aujourd'hui est beaucoup pensée en termes techniques. En fait, on évalue beaucoup ce qu'il faut faire très concrètement, très pragmatiquement pour y arriver. Par exemple, aujourd'hui, on entend beaucoup cette injonction à la voiture électrique. Mais il y a un énorme impensé au niveau du financement pour les plus modestes.
D'accord.
Un deuxième écueil, ce serait que la transition aujourd'hui est beaucoup pensée en silos, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est pensée par secteur. Donc, un exemple de ça, c'est qu'on voudrait régénérer la biodiversité en créant des parcs naturels touristiques. Mais il n'y a pas toujours de questionnement plus profond sur notre rapport assez consumériste à la nature ou notre organisation de la ville très séparée. Donc, en gros, il n'y a pas d'approche systémique qui mobilise à la fois des éléments physiques et des éléments issus des sciences sociales. Ensuite, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait eu des politiques publiques qui ont été pensées pour la transition, mais elles ont été inadaptées à la réalité socio-économique des ménages. L'exemple le plus récent qu'on a, c'est les gilets jaunes.
Oui.
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement et depuis quelques décennies, il y a quand même un climat de défiance politique. Il y a une sorte d'érosion de la confiance démocratique. Et puis, on est dans un contexte de crise sociale prolongée avec le chômage, le bouleversement du marché du travail. Mmh. Bref, tout cela complique beaucoup la réalisation de notre transition.
Et alors, en quoi l'élaboration d'un nouveau contrat social permettrait d'éviter ces écueils ?
Alors en fait, pour nous, le contrat social, c'est vraiment un outil et une méthode d'approche qu'on juge pertinent. Déjà parce que c'est un gain méthodologique. En fait, quand on s'empare du contrat social, on a une approche en quelque sorte sociologique. Ça permet de ne plus considérer un individu générique, universel, abstrait,
ouais.
Mais au contraire de penser des groupes sociaux différenciés qui ont des pratiques, des attentes, des représentations sociales différentes. Alors, on les pense dans leur différenciation, ces groupes, mais on les pense aussi dans leur interdépendance, hein, bien sûr. Tous ces groupes sont liés par une société, par un contrat. Donc, c'est aussi un gain analytique, ce contrat social. On fait de meilleurs diagnostics. Donc, par cette approche, on peut voir, par exemple, ce qui peut rassembler ou diviser les groupes sociaux. On porte notre attention sur les conflits, comme je l'ai beaucoup dit. Et ça permet d'intégrer les dimensions sociales et humaines de nos modes de vie, pas seulement, justement, les aspects techniques de la transition. Et enfin, c'est un gain politique, ce contrat social, parce que, par elle, par cette notion, on s'autorise à engager une recherche de solutions qui embarque tous les groupes sociaux et qui relève, en fait, le défi de la justice sociale. Mmh. Donc, notre mot d'ordre, ce serait un peu diagnostic de chacun et solution pour tous. Enfin, solution pour tous au sens de politiques publiques qui prennent en compte l'inégalité des dotations, des moyens de chaque groupe social. Et par ailleurs, en mettant au jour l'existence et la légitimité d'attentes, de contreparties exigibles de la part de la population, le concept de contrat social, en fait, peut motiver la mobilisation et le déploiement des mouvements sociaux. Mmh. Donc, c'est utile pour ça.
Et donc, cette approche plus sociologique permettrait finalement l'émergence de nouvelles convergences.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on aimerait bien faire émerger grâce à cette notion de contrat social, c'est un contexte propice à plusieurs choses. Déjà, un contexte propice à l'élaboration d'une politique issue d'un meilleur diagnostic social. Donc, l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre les dynamiques sociales à l'œuvre, les problèmes, les conflits, avant d'envisager les solutions.
Oui.
Un exemple de ça, c'est la crise de la taxe carbone.
Ça paraît évident comme ça, et en fait, ça va mieux en le disant.
Rappeler l'élémentaire, oui. Complètement. Donc voilà, au moment des gilets jaunes, la crise de la taxe carbone, ça a révélé un impensé au niveau de l'équité et un problème dans le fonctionnement de la démocratie, qui n'était pas assez direct. Autre chose qu'on aimerait susciter, c'est la proposition d'un contrat social et économique plus juste, qui rende possible aussi le changement de valeurs, d'habitudes qu'exige la sobriété. Derrière un contrat, il y a toujours un projet de société. Aujourd'hui, c'est un projet d'abondance. Et donc, en fait, il faut se demander quel nouveau contrat et quelles nouvelles promesses on peut formuler pour avoir une nouvelle alternative, une alternative séduisante.
Mmh.
Et c'est seulement si on répond à cette question que la transition écologique représentera un gain, notamment un gain social, et collectif, et qu'elle ne coûtera pas aux plus modestes.
Et que la sobriété heureuse ne soit pas juste un slogan, mais que
Exactement.
Ce soit quelque chose d'effectif pour tout le monde.
C'est ça, pour tout le monde, c'est vraiment un mot important. Et enfin, ce qu'on aimerait bien susciter, c'est une évaluation plus collective de l'acceptabilité des politiques publiques envisagées. Donc en fait, il s'agirait de mieux discuter des contreparties que les groupes sociaux peuvent exiger si on engage la transition, mais vraiment de façon délibérative et en considérant tous les aspects de la vie sociale. Donc l'idée, c'est que tout ne soit pas proposé par le haut de façon très verticale, par les élites intellectuelles, politiques, économiques, et que les citoyens en bas acceptent ou non. Il faut vraiment délibérer collectivement.
Alors pour ça, vous proposez, dans votre démarche, d'observer quatre dimensions de notre existence socio-économique, quatre pactes qui définissent les contours du contrat social, celui d'hier d'ailleurs comme celui de demain. Ces quatre pactes, ce sont le travail, la consommation, la démocratie et la sécurité, dans son acceptation assez large. Votre projet, votre étude commence par une approche historique. Pourquoi c'est important de porter ce regard sur les pactes passés, sur les contrats sociaux passés ?
C'est important parce que l'histoire nous montre bien comment certains pactes, certaines promesses, certaines représentations sociales ont été formulées diversement selon les époques. Et donc, ils sont questionnables par là même et ils ne sont pas fixés pour jamais. L'histoire nous montre aussi assez bien comment ces pactes et ces promesses se sont soldés parfois par des déceptions, notamment pour les plus démunis, par exemple l'école qui n'a pas permis l'égalité de fait qu'on espérait pour tous.
Mmh.
Donc pour ça, c'est utile. Et enfin, un certain recul historique auquel s'ajoutent des éclairages de la sociologie nous permettent également de voir en quoi ces pactes étaient parfois injustes dans leur formulation même. Donc c'est l'exemple du droit de vote, par exemple, qui longtemps a été accordé seulement aux hommes, hein, c'était complètement officiel.
Oui.
Et donc, en somme, observer l'histoire de ces pactes, ça nous donne des billes pour nouer un nouveau contrat social qui soit plus juste pour toutes et tous. Mmh. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir une étude historique de ces quatre pactes, de ces promesses, pour appréhender en fait les enjeux sociaux et politiques qui conditionnent et qui précèdent la transition écologique. Alors après, pourquoi quatre pactes ? Il se trouve que la modernité, par modernité j'entends la période qui commence avec la Révolution française en gros.
Mmh.
Donc il se trouve que la modernité superpose quatre grandes figures dans l'individu. L'individu est tout d'abord un travailleur, ensuite il est un consommateur, surtout depuis les années 60, ensuite il est un citoyen, et enfin il est un sujet, notamment un sujet social, qui est exposé à différents types d'insécurité, donc sanitaire, géopolitique, ouais. sociale, économique, climatique, etc. Mmh. Et c'est nécessaire de prendre en compte ensemble toutes ces dimensions pour imaginer un nouveau projet de société. Et historiquement, on voit que ces quatre pactes ont pu progresser, mais qu'ils ont pu aussi entrer en crise, et surtout qu'ils ont été en perpétuelle tension les uns ouais. avec les autres.
Alors, on va les reprendre un à un rapidement, hein, ces quatre pactes, pour bien comprendre ces tensions dont vous parlez. Premier, c'est la démocratie.
Tout à fait. Alors, l'histoire qu'on raconte sur la démocratie, c'est qu'on a progressivement élaboré un suffrage de plus en plus universel, qui soit de moins en moins excluant pour les minorités. Mais notre pacte représentatif, c'est-à-dire qui consiste à déléguer la décision à un personnel politique jugé plus compétent, ce pacte semble aujourd'hui un peu en fin de course. Il y a eu de forts taux d'abstention, des mouvements sociaux, il y a eu la demande du référendum d'initiative partagée par les Gilets jaunes récemment. On ne sait plus très bien quel est le rôle du citoyen et il y a un doute croissant sur le sens de l'exercice démocratique.
Deuxième pacte, la consommation.
Oui, alors le pacte de la modernité au sujet de la consommation, ça a pris progressivement cette forme, c'est qu'on se dit qu'il faut augmenter la production pour garantir la prospérité et assurer une promesse de démocratisation de la consommation, d'augmentation du pouvoir d'achat, de réduction des inégalités dans l'accès à certains services, certains biens. Alors cette promesse, elle a été partiellement réalisée. Mais cet élargissement n'est pas allé au bout de son processus, selon nous. Et par ailleurs, on se confronte désormais à une sorte d'impasse. C'est que consommer est plus que jamais une façon d'être socialement visible, mais le contexte économique, les incitations permanentes à l'achat rendent cette injonction consumériste intenable pour beaucoup, tout simplement parce qu'elle présuppose de hauts revenus. Mmh. Ensuite, un autre aspect déceptif par rapport à la consommation, c'est que nos modes de production et de consommation en fait menacent nos écosystèmes et ignorent les fondamentaux des droits de l'homme.
C'est ça.
Et puis enfin, on se confronte beaucoup aux injonctions contradictoires aujourd'hui de moins consommer pour protéger la planète, mais de continuer à consommer pour préserver la prospérité de nos économies. Et donc, en ce sens, on voit bien qu'on est un peu prisonnier des pactes du passé.
D'où l'intérêt d'imaginer un nouveau pacte, en particulier sur cette consommation. Troisième pacte, le travail.
Oui, alors le travail, là, pour le coup, notre pacte moderne serait de « on travaille et en échange, on est dignement rémunéré, protégé, on devient un acteur de la société ». De fait, le progrès du droit du travail et de la protection des travailleurs a beaucoup progressé depuis le 19e siècle. Mais depuis les années 80, généralement, on s'accorde un peu à dire que la dynamique s'est brisée. Il y a eu un retour du chômage, la démocratisation à l'intérieur de l'entreprise ne s'est pas vraiment produite. Mmh. Il y a des bouleversements aujourd'hui liés à la mondialisation et au progrès technologique qui perturbent complètement le marché du travail. Et donc, ça nous conduit aussi à nous poser cette question. Qu'est-ce qu'on attend du travail ? Et les promesses qu'on nous avait formulées, finalement, ont-elles été tenues ?
Mmh. Enfin, quatrième pacte, la sécurité.
Oui, alors la sécurité, le pacte de la modernité, ce serait on accepte la domination de l'État et en échange, on est protégé, on est défendu en tant que sujet citoyen.
Mmh.
De fait, la sécurité des citoyens a été nettement améliorée, notamment parce qu'on a progressivement compris que la sécurité, en fait, est un terme plus large que la simple intégrité physique.
Mmh.
Donc on a pensé de plus en plus la sécurité sanitaire, la sécurité sociale, la sécurité économique, etc. Mais avec la crise climatique et la situation de crise sociale prolongée, il y a un nouvel horizon d'insécurité qui apparaît et auquel les gouvernements vont devoir répondre. Donc tous ces éléments en fait, se révèlent complètement chamboulés par la crise environnementale.
Alors c'est tout l'enjeu de ce nouveau contrat social, hein, si je résume, accepter de regarder ce qui entre en conflit aujourd'hui et puis proposer des solutions qui rassemblent ou alors trouver des compromis, des contreparties. Quelques mots rapidement du déroulé de votre démarche pour mener à bien ce projet.
Alors, la première brique, c'est comme on l'a dit, c'est l'étude historique.
Ouais.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est des entretiens avec différents échantillons de groupes sociaux, pour avoir une approche un peu sociologique. Ensuite, on va élaborer un tableau d'indicateurs pour évaluer le degré de satisfaction ou d'insatisfaction sociale vis-à-vis de nos différents pactes. Okay. Et la dernière étape, c'est d'organiser de premiers ateliers délibératifs de manière à tester des modalités de discussion citoyenne. Là-dessus, on s'inspire beaucoup de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, il s'agira pour nous de répondre à différentes questions. Comment organiser concrètement une discussion démocratique sur nos pactes? Comment formuler ces enjeux de contrat social de manière collective? Qu'est-ce qu'on peut attendre des citoyens? Et plus concrètement, on aimerait bien montrer qu'il est possible et utile de se confronter collectivement à la complexité des enjeux sociaux. Là-dessus aussi, on s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat.
Avec cette ambition donc de construire un nouveau modèle de société durable, une sorte de révolution qui ne serait pas le fait d'un groupe, mais qui serait discutée, négociée pour être acceptée. Merci beaucoup Marion Bette.
Merci.
On suivra avec intérêt ce projet de faire émerger un nouveau contrat social. À bientôt. C'est la fin de ce coup de projecteur sur la manière dont un nouveau contrat social pourrait nous aider à basculer dans une nouvelle ère. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I-D-R-I, ainsi que sur LinkedIn et Twitter. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.